DN, l'atelier du désir novateur sur Radio Campus 106,6 MHz en modulation de fréquence et www.campuslille.com sur la toile. L'atelier du désir novateur vous propose une série d'émissions sur la chanson poétique et sociale de l'histoire. Cette semaine, la chanson satirique de Charlemagne à Louis XV. Les chansons satiriques, chansons malicieuses, mordantes, ironiques ou pleines de colère, constituent un reflet fascinant de l'opinion publique à un instant précis de notre histoire. De telles chansons sont donc des documents au même titre qu'un instantané pris par un reporter. Ce programme regroupe quelques-unes de ces chansons explorant une période allant de Charlemagne à Louis XV. Le texte de Guy Breton est dit par Claude Dauphin. Les chansons sont interprétées par Colette Renard et le trio Chanteclair. La première partie couvrira la période Charlemagne-Marie de Médicis.
Beaumarchais a bien raison de dire qu'en France, tout finit par des chansons. Car il n'est pas un scandale mondain, un adultère amusant, une grande dame troussée, une lesbienne célèbre, un ministre homosexuel, une comédienne nymphomane, un ballet rose ou une soirée un peu leste organisée par des personnages en vue qui n'ait inspiré un couplet ironique ou léger. Mis bout à bout, ces couplets constituent une extraordinaire chronique scandaleuse qui commence à Charlemagne. Car sous Charlemagne déjà, les chansonniers composaient des couplets d'actualité. Et quand le grand empereur mourut, on le pleura en musique.
Les Francs, les Romains et tous les croyants sont frappés de deuil et d'un grand chagrin. Les enfants, les vieillards, les princes glorieux du monde crient, c'est un fait, la perte de Charlemagne. Hélas, que je suis malheureux.
Déjà, déjà, des fleuves de larmes ne cessent de couler. Les matrones pleurent la mort de Charlemagne. Christ, toi qui gouvernes les armées des cieux,
donne le repos à Charlemagne en ton royaume. Hélas, que je suis malheureux.
Ce n'est pas une chanson satirique, direz-vous. Elle n'en a ni le style, ni le ton, sans doute. Mais il n'est pas interdit de penser que l'outrance des images et le ton emphatique de cette complainte ont fait sourire ceux des Francs qui n'étaient pas des admirateurs inconditionnels du grand Charles. Je veux dire de Charles le Grand. Les autres chansons sont d'une drôlerie plus directe, je m'empresse de le dire. Elles témoignent également d'une liberté de langage qui risque d'étonner. Cela tient au fait que nos ancêtres avaient une santé morale qui leur permettait de tout dire avec une superbe absence d'hypocrisie. Avant d'aller plus loin, il convient peut-être de présenter quelques-uns des chansonniers de ces temps anciens et de corriger l'image douceâtre que nous ont laissée les romantiques du gentil trouvère ou du galant troubadour éperdu d'amour et de respect pour une dame inaccessible. Voyons par exemple Guillaume IX d'Aquitaine, comte de Poitiers, qui vivait au XIIe siècle. Ce troubadour, d'un cynisme qui dérouterait les psychanalystes, se présente en ces termes.
On m'appelle maître infaillible, la femme qui m'a eu un soir, le lendemain veut me ravoir. Dans ce métier, je puis le dire, je suis si fort qu'il peut me procurer mon pain en tout pays.
Au XVIe siècle, les chansonniers s'attaquèrent à Diane de Poitiers, soulignant de façon peu galante la grande différence d'âge qui existait entre la favorite, alors âgée de 50 ans, et Henri II, qui n'en avait que 29. Et l'on chanta ces couplets adressés à Catherine de Médicis, l'épouse trompée, que l'on appelait familièrement Catin, du diminutif de son prénom.
Malgré son grand âge, Diane ce soir à Blois est en chasse, je crois, pour y forcer un roi. Ah, Catin, Catin, quel dommage! Déesse peu sage, la vieille ira de nuit sonner un halali qui aura lieu au lit. Ah, Catin, Catin, quel dommage!
Plus tard, le rôle joué par Diane de Poitiers dans la guerre religieuse inspira au chansonnier ce couplet sans embâge.
Aux pauvres, pauvres protestants que l'on mène au bûcher ardent, c'est Diane qui vous fait brûler, les yeux crevés, tondus, pendus, car on allume les bûchers avec le feu qu'elle a au cul.
Ce qui sans doute était leste, mais résumait assez bien la situation. Bref, Diane était généralement détestée, au point que lorsqu'Henri II la trompa avec Lady Fleming, jeune gouvernante de Marie Stuart, tout le royaume exprima sa joie en chantant une petite chanson fort badine.
Il s'est fait écosser le jonc par une fillette d'Écosse. Diane les vit sur le gazon. Son œil brillant noir et féroce. Oh le joli jonc, bon, 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 mon compère. Oh le joli jonc, le joli jonc. Et chacun vit que le croissant dont tous les artistes vous ornent aux déesses depuis 20 ans n'était qu'une paire de cornes. Fini les joies de l'éperon, fini la course à l'aiguillette, le roi préfère pour son jonc les fraîches et jeunes motelettes.
En 1566, les chansonniers s'occupèrent de la maîtresse de Charles IX, Marie Touchet. C'était une gracieuse orléanaise, aux yeux bien fendus et au tempérament ardent, qui n'abandonnait les parties de courte pointe dans la couche royale que pour protéger les protestants, ses frères en religion, car elle était huguenote. Le peuple, n'ayant rien de précis à lui reprocher, se contenta de faire des calembours avec son nom.
C'est Marie d'Orléans, touchez-la, ma commère, touchez-la. C'est Marie d'Orléans qui a de beaux bras blancs
en son jardin d'amour. Touchez-la, ma commère, touchez-la.
En son jardin d'amour, un roi vient tous les jours. S'en vont jusqu'à Chessy. Touchez-la, ma commère, touchez-la. S'en vont jusqu'à Chessy pour y passer la nuit.
Avec Henri III, les plaisanteries allaient devenir plus équivoques, on s'en doute. C'était aux mignons, si j'ose dire, que les chansonniers réservaient leur verge.
Avec ses petits compagnons, depuis que le roi trouve bon de chercher un plaisir contraire, il faut le dire tout crûment, ce n'est pas par étonnement que la cour est sur le derrière.
Sur le derrière.
Ces pamphlets n'empêchaient pas Henri III de se montrer en public, entouré de ses favoris auxquels, sans pudeur et sans honte, il mettait main à la fesse. Chacune de ces petites exhibitions donnait lieu à des couplets moqueurs et François d'Épinay de Saint-Luc, le préféré, inspira cette petite chanson.
Saint-Luc, le plus beau des mignons, sais-tu que le bout de ton nom, comme toi, peut se retourner et former, afin de te désigner mieux, ce nom cent fois plus glorieux, cent fois plus juste et mieux venu de Saint-Cul.
Au XVIe siècle, les guerres de religion s'accompagnaient parfois de couplets fort légers, que les historiens omettent généralement de citer, rendant ainsi cette période très ennuyeuse. En voici quelques-uns, qui donneront une idée du ton qu'employaient fréquemment les huguenots pour défendre leur sainte cause.
Prêtraille, après la messe, s'en va toucher les fesses des fringantes nonnes, puis baiser les moinesses et chevaucher la baisse qui se pomme en latin. Moine, de qui te moques-tu? Tu aimes trop le cul. Moine, de qui te moques-tu? Tu aimes trop le cul.
Ce qui était assez direct. Ou encore...
Il est bien fini le temps, papiste lubrique, prêtre satanique et moine puant. Ou pour prêcher vous mettiez la main à la fente de vos pénitentes, plus qu'au bénitier.
Les catholiques répliquaient par des chansons tout aussi drues. Et Calvin, qui avait la très mauvaise réputation d'aimer son prochain dès que celui-ci avait le dos tourné, fut tout spécialement attaqué.
Calvin est un homme très intelligent. Il vient de Sodome prêcher contre Rome et les sottes gens. Calvin n'aime pas les cons, verdurette, verduron. Calvin n'aime pas les cons, mais les petits garçons.
Dans ce duel à coups de chansons, les problèmes religieux, on le voit, étaient un peu oubliés. Plus tard, les chansonniers se penchèrent avec quelque indiscrétion sur la vie amoureuse de la reine-mère, Marie de Médicis. La Florentine était, on le sait, la maîtresse de Consigny, cet aventurier auquel elle avait donné le titre de maréchal d'encre, et les membres de la cour chantonnaient, en clignant de l'œil, dans les couloirs du Louvre.
Si la reine allait avoir un enfant dans le ventre,
il serait bien noir, car il serait d'encre.
Ô guéridon, ô guéridon d'ondaine, ô guéridon, ô guéridon, don, don.
Radio Campus, 106,6 MHz en modulation de fréquence et www.campuslille.com sur la toile. L'atelier du désir novateur vous propose une série d'émissions sur la chanson poétique et sociale de l'histoire. Cette semaine, la chanson satirique de Charlemagne à Louis XV. La deuxième partie de ce programme consacré à la chanson satirique dans l'histoire couvrira la période Louis XIII-Louis XIV.
Louis XIII, roi ennuyeux qui passait son temps à s'ennuyer, ne pouvait pas inspirer de couplets truculents aux poètes satiriques de son temps. Après l'avoir considéré sur toutes ses faces et s'être bien convaincu que ce souverain était pour eux un mauvais sujet, ils s'intéressèrent un moment à la jeune reine Anne d'Autriche, dont le flirt avec le beau Buckingham, ou bouquinquan, comme on disait alors, avait fait jaser la cour.
Si la reine admire l'anglais en visite, c'est que notre sire l'a toute petite. Sa turlure. Et que la pauvre Anne, pour ses 25 ans, a besoin d'un âne ou d'un bouquin camp pour sans turlure.
Mais Anne d'Autriche ne céda pas au bel anglais et continua sa chaste existence auprès de Louis XIII, qui, lui, rougissait devant les dames. Écœurés par ce couple de souverains pudibonds, les chansonniers lancèrent un couplet qui amusa la cour et la ville.
Au temps du roi Guillemot et de la reine Guillemotte, on prenait les hommes au mot et les femmes à la motte.
Et les braves gens pensaient en soupirant que les temps avaient bien changé. À la mort de Richelieu, les chansonniers s'en donnèrent à cœur joie, et presque tous les couplets composés en guise d'épitaphe concernaient la liaison du prélat et de sa nièce, Madame de Combalet.
Si Gilles Fléau de la terre, ce prêtre qui faisait la guerre, qui vécut du sang des Français, l'auteur du mal qui nous désole et qui de sa nièce autrefois eut deux enfants
et la vérole.
Ce qui ajoutait à la tristesse de l'événement. Le 26 août 1648, Mazarin fit arrêter en plein midi un de ses principaux adversaires au Parlement, le conseiller Broussel. Immédiatement alertés, les Parisiens fermèrent leurs boutiques et tendirent les grosses chaînes de fer qui étaient à l'entrée des rues principales. En quelques heures, 200 barricades furent formées et les émeutiers entourèrent le palais royal. La fronde commençait. Le lendemain, une longue complainte circula dans toute la ville. En voici un extrait. On verra que la chanson, qui tenait déjà lieu de presse d'opposition, pouvait devenir à l'occasion un moyen populaire d'information. Il s'agit en effet d'un véritable reportage sur la journée d'émeute.
Ce fut une étrange rumeur, lorsque Paris, tout en fureur, s'émut et se barricada. Alléluia. Sur les 2 heures après dîner, dedans la rue Saint-Honoré, toutes les vitres l'ont cassa. Alléluia. Le maréchal de l'hôpital fut sur le pont neuf à cheval afin de mettre le holà. Alléluia. Un tas de faquins en émoi lui fit crier « Vive le roi !» Tant de fois qu'il s'en enruma. Alléluia. On vit monsieur le cardinal, de rage que tout allait mal, ronger les glands de son rabat. Alléluia. Si les bourgeois eussent voulu, le cardinal était pendu, mais son bonnet on respecta. Alléluia.
Bientôt, les chansonniers allaient appeler tout le pays à l'insurrection contre Mazarin. Et la chanson, comme dans tous les mouvements populaires, devint une des armes les plus dangereuses de la sédition.
Villes et villages, le tocsin il faut sonner, romper tous les passages qu'il voulait ordonner. Faut sonner le tocsin d'un pour pendre Mazarin.
Il fout notre régente et lui prend ses écus, et le bougre se vante qu'il l'a foutu en cul. Faut sonner le tocsin dadada pour pendre Mazarin.
Malgré les réserves alimentaires que possédait Paris, les effets du blocus organisé par la régente ne tardèrent pas à se faire sentir. En mars, les vivres commencèrent à manquer et les Parisiens connurent de dures restrictions. Pour se nourrir, on sacrifia tous les animaux domestiques, les chiens, les chats, les oiseaux de volière. Le peuple, pourtant, conservait sa bonne humeur et s'amusait des étrangetés provoquées par la situation. Aussi, imagine-t-on aisément les plaisanteries qu'il fit en apprenant qu'un procureur mal avisé avait commis l'imprudence de manger un âne.
Il était assez renommé d'être un procureur affamé, mais durant la disette extrême, il fallait qu'il fût enragé, et si chacun eût fait de même, Paris se fût entremangé. Mais qui l'aurait jamais pensé que ce procureur insensé eût fait cet horrible carnage? Plaideur, cessez vos différends, fuyez ce méchant dont la rage n'a pas épargné ses parents.
Tandis que les magistrats se dévoraient ainsi entre eux, certaines jolies femmes, elles, se donnaient pour un peu de farine. Et plus tard, on chantera cette époque de restriction avec nostalgie.
Mon Dieu, le bon temps que c'était à Paris durant la famine, tout le monde s'entrebaisait. Mon Dieu, le bon temps que c'était. La plus belle se contentait d'un simple boisseau de farine. Mon Dieu, le bon temps que c'était à Paris durant la famine.
Les princes hostiles à Mazarin étaient poussés par quelques belles excitées, ravis de pouvoir jouer un rôle politique. À la fin de 1650, le cardinal, excédé, en fit exiler deux parmi les plus dangereuses, les comtesses de Fiesque et de Pienne. Cet événement bien parisien inspira une chanson d'une extraordinaire violence.
Mazarin, ce bourgeron de Paris, chasse les cons. C'est un renégat, un bougre d'ingrat, de les avoir en haine. Il n'eût jamais été qu'un fat sans celui de la reine Lola, sans celui de la reine. Moi, je ne veux point de mal à monsieur le cardinal. C'est un étranger qui veut se venger. Je pardonne pas sa haine, mais je voudrais bien étrangler notre putain de reine Lola, notre putain de reine.
En 1660, Louis XIV se maria avec Marie-Thérèse d'Autriche, ce qui ne l'empêcha pas de s'intéresser bientôt à sa belle-sœur, Henriette d'Angleterre, que monsieur, malgré ses goûts spéciaux, venait d'épouser. Philippe d'Orléans se consola avec des amis, et un auteur de l'époque écrit « Sa tendresse n'était pas pour les dames, dont la galanterie lui paraissait trop commune, quoiqu'il en affecta les manières en plusieurs rencontres, car sa toilette ressemblait plus à la leur qu'à celle d'un général d'armée. » Et l'on chantait.
Quand Louis prit le devant, il laissa le derrière. Il abandonna ce lieu pour apanage à monsieur, son frère, son frère, son frère.
En 1661, Henriette d'Angleterre fut quittée par le roi, qui était tombé amoureux de Mademoiselle de Lavallière. Madame se consola en devenant la maîtresse de Monsieur de Guiche, qui était d'ailleurs l'un des amants de son mari. Ainsi se trouvait brusquement consolidée, par l'intermédiaire d'un tiers, l'union chancelante de Madame et de Monsieur. Henriette aimait le comte de Guiche pour son bel air et aussi pour son caractère facétieux. Les plaisanteries de ce jeune homme, portées sur les deux sexes, n'étaient pourtant pas toujours de très bon goût, ainsi que nous le prouve cette anecdote rapportée par Primi Visconti. Se trouvant un soir au jeu de la reine, le comte sentit que la main d'une dame, son amie, était occupée dans un endroit qu'il convient de taire par modestie et qu'il couvrait avec son chapeau. Observant que la dame tournait la tête, il souleva malicieusement sa coiffure. Tous les assistants s'étant mis à rire et à chuchoter, je vous laisse à penser comme la pauvrette demeura confuse. Le soir même, on en fit une chanson.
Iris, vous rougirez longtemps de la triste posture où vous fûtes quand votre amant retira sa coiffure. Soudain, toute la cour vous vit d'une mine sereine, lui caresser d'un doigt le vit à deux pas de la reine.
Pendant ce temps, Louis XIV s'occupait à la fois de la reine et de Mademoiselle de Lavallière, tâche exténuante qui laissait toujours l'une des dames insatisfaite. L'incapacité pour Louis XIV de mener deux vies amoureuses de même qualité nous est d'ailleurs confirmée par une anecdote. À la mort d'un des enfants de la reine, le roi demanda à son médecin « D'où vient Guénot que mes bâtards sont sains et ne meurent point, tandis que tous les enfants de la reine sont si délicats et meurent ?»« Sire, répondit Guénot, c'est que votre majesté n'apporte chez la reine que les rinçures du verre. » Opinion qui était partagée par l'auteur de ce couplet dont la cour s'amusa.
Dites-nous, Lavallière, quand Louis est en rute, va-t-il de sa matière vous donner le tribut ?
Oui, le roi tout de braise me la porte tout droit, et la pauvre Thérèse n'a que le lèche-doigt.
L'exemple venant de haut, la plupart des membres de la famille royale couraient alors le jupon avec la plus impudente des frénésies. On vit même pendant quelque temps monsieur, jusqu'alors si indifférent au charme des dames, paraître épris de l'une des filles du maréchal de Grancey. Mais l'idylle n'alla pas bien loin car le frère du roi ne pouvait toucher un corps féminin sans faire la grimace. Un jour, la demoiselle, l'ayant prié de lui mettre la main quelque part, il enfila ses gants. Une chanson fut alors composée sur les déportements de cette cour que certains comparaient à un grand lupanar, et l'auteur en profitait pour faire une allusion maligne aux origines adultérines de Louis XIV.
Laissez baiser vos femmes,
Montespan, Monaco,
Créqui. Laissez baiser vos femmes, les nôtres baisent aussi.
Si la de Flex à 50 ans ne peut se passer de galant,
si la Beauvais baise à 100 ans, pourquoi ces jeunes femmes pleines de jeunesse et d'appât, pourquoi ces jeunes femmes ne baiseraient-elles pas?
Baiser, baiser, beau sire, le père Ferrier ne vit plus. Baiser comme un satyre et fête des cocus. Le roi Louis XIII le fut bien sans le secours de Mazarin.
Où seriez-vous, roi très chrétien?
Damane bien apprise pour vous faire par son canal.
Fils aîné de l'Église, vous eût du cardinal.
Radio Campus, 106,6 MHz en modulation de fréquence et www.campuslille.com sur la toile. L'Atelier du désir novateur vous propose une série d'émissions sur la chanson poétique et sociale de l'histoire. Cette semaine, la chanson satirique de Charlemagne à Louis XV. La troisième partie de ce programme consacrée à la chanson satirique dans l'histoire nous contera quelques épisodes piquants du règne de Louis XIV.
On chantait aussi les goûts spéciaux. Lully, dont on disait qu'il était un amateur de scie, parce que le si est plus bas que le do, eut droit à des couplets assez malveillants.
Baptiste est fils d'une meunière, personne n'en saurait douter. Il chevauche comme un meunier, toujours sur le derrière. Un jour, l'amour dit à sa mère: pourquoi ne suis-je pas vêtu? Si Baptiste me voit tout nu, c'en est fait de mon derrière.
Le célèbre Père Lachaise était aussi de la confrérie. On le gratifia d'un couplet.
Si vous voulez savoir pourquoi Lachaise est confesseur du roi, c'est que ce rusé père, eh bien, ne défend pas de fer. Vous m'entendez bien?
On le surnommait d'ailleurs la chaise des commodités. À cette cour débauchée et hypocrite, grossière et pincée, orgueilleuse et sale, Louis XIV donnait un exemple constant en vivant publiquement avec trois femmes, la reine, Madame de Montespan et Mademoiselle de Lavallière. Des deux favorites, Madame de Montespan était bien sûr la préférée, et la pauvre Louise devait accepter de voir ce roi qu'elle aimait traverser sa chambre pour se rendre chez sa rivale. Le 18 décembre 1673, Louis XIV, dont la délicatesse envers les femmes est célébrée dans tous les manuels scolaires, obligea Mademoiselle de Lavallière à être la marraine d'une fille que venait de lui donner Madame de Montespan. Cette incroyable goujaterie désespéra la malheureuse Louise. Quelque temps après, elle entrait au couvent. Sa sortie du siècle fut l'objet d'une chanson.
Adieu Chambord, Trianon et Versailles, beaux palais enchantés. Je vais pleurer entre quatre murailles mes infidélités. Ce que je prends vaut bien ce que je quitte. Je suis carmélite, moi. Je suis carmélite.
Devenue seule favorite en titre, Madame de Montespan s'efforça de consolider sa position en ayant recours à la magie et aux messes noires. À plusieurs reprises, dans un endroit secret, elle s'allongea nue sur un autel et participa à des immolations monstrueuses. En outre, elle réussit, par l'intermédiaire de complices, à faire introduire des aphrodisiaques dans les aliments de Louis XIV. Dès lors, et pendant 5 ans, Madame de Montespan allait droguer régulièrement le roi pour qu'il fût sous sa dépendance. Bientôt, le souverain, atteint de priapisme, ne se contenta plus de la marquise. Comme au temps de sa folle jeunesse, il courut de l'une à l'autre et grignota avec frénésie Madame de Grancey, la princesse Marie-Anne de Wurtemberg et même Mademoiselle des Œillets, propre femme de chambre de Madame de Montespan. La marquise fut très vexée, surtout lorsqu'elle trouva ce couplet glissé par une main inconnue entre les feuillets de son missel.
Ainsi vont et passent les choses. Décembre vient après juillet, lorsque sont trop fanées les roses, on leur préfère des œillets.
Puis Louis XIV fit entrer dans son lit la très gracieuse Madame de Ludre, qui avait en Lorraine le titre de chanoinesse. Dès le lendemain, le couplet suivant circulait de bouche à oreille.
La Vallière était du commun, la Montespan est de noblesse, et la de Ludre chanoinesse, toutes trois ne sont que pour un. Mais savez-vous ce que veut faire le plus puissant des potentats? La chose paraît assez claire. Il veut unir les trois États.
Après quoi, le roi s'est pris d'une ravissante blonde de 28 ans, Anne de Rohan, baronne de Soubise, qui se laissa mettre en broche avec beaucoup de gentillesse. Au début, leur liaison fut à ce point discrète qu'elle passa inaperçue. Mais un soir, Louis XIV, fatigué par des prouesses dignes des anciens, s'endormit chez sa belle amie. À 3 heures du matin, Marie-Thérèse, chez qui il allait toujours terminer ses nuits, s'inquiéta de ne point le voir paraître et donna l'ordre de le rechercher dans tout le château. On alla d'abord chez Madame de Montespan, qui apprit ainsi que le roi la trompait. Puis les femmes de chambre coururent réveiller les dames d'honneur pour savoir si l'une d'elles n'avait pas le roi dans son lit. Mais personne ne songea à visiter l'appartement de Madame de Soubise. Le lendemain, la reine demanda au roi où il avait dormi. Louis XIV, très ennuyé, avoua qu'il était chez la baronne. « Quoi ? » dit Marie-Thérèse. « Cette femme qui se tient à distance pour vous parler ?»« Oui, » répondit le roi, « mais nous nous entendons sans parler. Quand elle me donne un rendez-vous, elle m'en avertit en mettant des pendants d'oreilles d'émeraude, et moi, de mon côté, pour obtenir un tête-à-tête, je mets mon diamant à mon petit doigt. » L'aventure de la nuit fut connue dès le lendemain dans les salons parisiens par une de ces chansons qui préfiguraient la presse à scandale.
Au nom du ciel, fouillez les lits, on a perdu notre roi Louis.
Et la reine se désespère.
L'air là, l'air lent, l'air là, l'air lent là. Voilà qu'on soulève les draps de tous les lits, tous les grabats.
Où dort une femme légère.
L'air là, l'air dans l'air là, l'air dans là. Ouvrant tous les appartements, on réveille la Montespan qui entre dans une colère. L'air là, l'air dans l'air là, l'air dans là.
Comment le roi n'est pas couché avec la reine à son côté? Je suis cornette sans mystère. L'air là, l'air dans l'air, l'air là, l'air dans là.
On court chez les dames d'honneur qui poussent des cris de frayeur
et veulent se plaindre au Saint-Père.
On va jusque dans les greniers, chez les filles des jardiniers.
Mais sans trouver le roi, ma chère.
L'air là, l'air dans l'air là, l'air dans là. On s'affole, on tremble de peur, la reine est prise de terreur.
Vers le ciel montent des prières.
Oh, Domine Sanctum Patre Gem Nostrum Ludovicum.
L'air là, l'air dans l'air, enfin Louis paraît radieux. D'un lit mystérieux
que Soubise connaît, j'espère.
L'air là, l'air lent là, ne pleurez plus, gens de la cour. Chagrin de nuit s'envole pour jour.
La France a retrouvé son père. L'air là, l'air lent l'air, l'air.
Puis ce fut le règne de Madame de Maintenon qui entendit se mêler des affaires de l'État. Le temps de la colère n'étant pas venu, on se contenta d'en ricaner avec assez d'esprit, ainsi que le montre ce couplet.
Ô dauphin irrité de voir comme tout va, Louis dit mon cher fils que rien ne vous étonne. Nous maintiendrons notre couronne. Le dauphin répondit, sire, maintenons-la.
Les chansonniers que la vie amoureuse du roi et de Madame de Maintenon ne parvenait pas à passionner s'intéressèrent de nouveau aux petits scandales de la cour et de la ville. Justement, une affaire assez spéciale retenait l'attention du public. Un jeune jésuite s'était introduit dans la cellule d'une religieuse du couvent de l'Ave Maria et lui avait montré une chaleur intempestive. Une chanson rapporta les faits à sa façon.
Il était une religieuse du couvent de l'Ave Maria qui devint amoureuse d'un cafard de Loyola. Un jour de Pâques, à ce que dit l'histoire, le pater dans sa cellule entra. Ce fut ainsi qu'on peut le croire pour chanter Alléluia. Au doux soupir qu'ils poussaient l'un et l'autre, la prieure accourut et trouva enfilés comme des pattes nôtres le pater et l'ave Maria.
Au mois de décembre 1694, une aventure assez curieuse arriva au dauphin. Un soir, que ce prince rentrait chez lui, après une journée de chasse, son valet de chambre vint à sa rencontre en courant et lui dit avec les marques d'une intense émotion « Monseigneur, une dame est dans votre lit qui vous attend. Elle n'a pas voulu se nommer. » Sans prendre le temps de se déboter, le dauphin entra dans sa chambre, fort intrigué, et découvrit la marquise de Richelieu qui l'attendait, l'œil fripon et complètement nu entre les draps. Depuis longtemps, cette dame, horriblement débauchée, cherchait à se faire béliner le joyau par le fils de Louis XIV, qui restait indifférent. Cette fois, l'audacieux stratagème de la marquise désarma le dauphin, qui commença à retirer ses bottes. Peu discret, il raconta le lendemain sa galante aventure à tous les gens de la cour, et l'un d'eux en fit une chanson.
Hier soir, blonde marquise, notre dauphin vous trouva dans sa chambre sans chemise, étendu entre ses draps. Ce bon prince fut bien aise en cette froide saison, qu'un cul chaud comme la braise vienne chauffer sa maison. Qu'un cul chaud comme la braise vienne chauffer sa maison. Ne réservez point de grâce, Madame de Richelieu, à cette royale race la douce ardeur de vos feux. Chaque soir, chaude marquise, de votre cul si jolie, avec une grâce exquise, venez bassiner mon lit. Avec une grâce exquise, venez bassiner mon lit.
Radio Campus 106,6 MHz en modulation de fréquence et www.campuslille.com sur la toile. L'atelier du désir novateur vous propose une série d'émissions sur la chanson poétique et sociale de l'histoire. Cette semaine, la chanson satirique de Charlemagne à Louis XV. La quatrième partie de ce programme consacrée à la chanson satirique dans l'histoire couvrira la période Louis XIV-Louis XV. Dans cette partie seront proposées la fin de la chronique de Claude Dauphin par Colette Renard et le trio Chanteclerc, mort de Louis XIV par le Quatuor de la Cité, Où trouver une fille charmante par Claudine Collard, Sur Madame de Pompadour par Claude Barré, et la prise de la Bastille par le Sextuor de la Cité pour évoquer la suite.
En 1696, quelques beaux esprits composèrent pour Noël une chanson longue de 175 couplets qui annonçait nos revues de fin d'année. On y voyait tous les personnages de la cour se présenter à tour de rôle devant la crèche, procédé qui permettait aux auteurs de les égratigner au passage. Le roi, naturellement, venait le premier.
Le grand Louis s'avance avec la main tenon, faisant la révérence, il a dit au poupon, avec la Montespan, j'ai commis une offense, j'ai péché tout de bon dondon, mais avec celle-là, là, là, je fais ma pénitence.
L'esprit du temps était à ce point tourné vers la folâtrerie que tout, même les événements les plus anodins, pouvaient fournir matière à des chansons polissonnes. Il suffira d'un exemple. En 1698, M. d'Argenson, successeur de M. de La Reynie comme lieutenant général de police, signa une ordonnance par laquelle il était prescrit aux Parisiens, par mesure d'économie, de ne mettre dans les lanternes publiques que de petits bouts de chandelles les jours où la lune se levait à 10 heures. Cette décision inspira une chanson pleine d'allusions coquines.
Le bout de Monsieur d'Argenson se raccourcit avec la lune. Il devient un colimaçon, le bout de Monsieur d'Argenson. Mais il est plus gros et plus long quand il voit paraître la brune. Le bout de Monsieur d'Argenson se raccourcit avec la lune.
Mais Madame de Maintenon était la cible préférée des chansonniers. On l'accusait d'être à l'origine de tous les maux. Un jour, la misère devint telle que le peuple se fâcha tout de bon et le ton devint d'une extrême violence.
On peut sans être satirique trouver ce règne assez comique. Voyez cette sainte putain, comme elle conduit cet empire. Si nous n'en crevions pas de faim, nous pourrions en mourir de rire.
Enfin, le 1er septembre 1715, Louis XIV mourut d'une gangrène sénile. Aussitôt, avec une joie indécente, le peuple chanta sa joie, et 9 jours plus tard, le corps du souverain était porté à Saint-Denis. Jamais funérailles royales ne furent plus enjouées. Tout au long de la route qui menait de Paris à la basilique des rois de France, les gens dansaient, riaient, mangeaient des gaufres, buvaient des rafraîchissements, jouaient du violon et entonnaient les chansons que leur vendaient des colporteurs. L'une d'elles racontait la vie du souverain et rappelait, une fois de plus, son origine incertaine.
Or écoutez mes chers amis, le très véritable récit, l'histoire de notre monarque. Et vous jugerez si la parque a bien ou mal fait de trancher la trame d'un prince si cher. Son père, le roi des Français, tous les jours faisait des souhaits pour que la reine fût enceinte. Il priait les saints et les saintes. Le cardinal priait aussi. Il a beaucoup mieux réussi.
Ainsi se termina, dans une atmosphère de kermesse, le règne du plus majestueux de nos rois de France.
Enfin Louis le Grand est mort, la parque a terminé son sort, pour guinguer, voulons la la, elle vient de trancher sa vie, toute l'Europe en est ravie.
Enfin
Louis le Grand est mort.
Nous lui prêtâmes notre argent, en beau louis, en écu blanc, croyant qu'il serait honnête homme. Mais nous savons à présent comme cet être fou de sa fille a des gens que l'on ne peut coffrer.
Les uns le nomment Louis le Grand, et d'autres Louis le Tyran. Louis le banqueroutier, Louis l'injuste.
Et ses raisons étaient assez justes.
Il n'eut d'autre raison jamais
qu'en disant voulons et nous vous plaît.
Enfin Louis le Grand.
Ce prince n'avait pas pourtant
le cœur dur comme un diamant. Car il aimait la damoiselle, quand il avait jeune cervelle, puis étant devenu baron, il prit la veuve de Scarron. Le confesseur qui le savait, pour pénitence lui donnait, d'exterminer les jansénistes, dont en poche il avait la liste, et chaque péché pardonné. Par une lettre de cachet. Il composa dedans son lit le dernier tome des édits. Il régla toute la finance de ce pauvre peuple de France. Tous ses billets il retira, et c'est ainsi qu'il s'acquitta.
On fit venir des médecins,
mais soit qu'il n'y connusse rien,
ou que par esprit de prudence,
voulussent en délivrer la France,
ils l'ont mis dans le monument,
à notre grand contentement. Enfin, Louis le Grand est mort, la Pâque a terminé son très
beau regard, et vient de trancher sa vie, toute l'Europe en est ravie.
À 13 ans, Louis XV était un adolescent taciturne et pudique, dont la timidité à l'égard des femmes inspirait bien des inquiétudes au peuple français. Aussi jugea-t-on nécessaire en juin 1724 d'organiser à Chantilly une partie de campagne qui put donner au jeune roi l'occasion d'être dépucelé. 17 ravissantes demoiselles furent choisies pour cette exaltante besogne. Ce ne fut cependant pas l'une d'entre elles qui y parvint, mais c'est avec la marquise de la Vrière, au charme un peu fané, que le roi perdit dans un bosquet le duvet de son bourgeon. Après avoir été fiancé à l'infante d'Espagne, Marie-Anne Victoire, âgée de 6 ans, Louis XV épousa Marie Leczinska, avec laquelle il connut les plaisirs simples de l'amour conjugal pendant 7 ans. Le cardinal de Fleury, qui voulait éloigner Louis XV de la politique, poussa dans la couche royale Louise-Marie de Nesle, comtesse de Mailly, une jolie femme de 22 ans, de grands yeux noirs bien fendus, une démarche lascive et un son de voix voluptueux. Après 2555 jours de fidélité, le roi sauta le pas. Le cardinal de Fleury put ainsi gérer les affaires du pays à sa guise. Dès lors, ayant goûté à l'adultère, Louis XV s'engagea dans une voie qui devait le conduire aux plus regrettables excès. Le 25 février 1745, au cours d'un bal masqué, Louis XV jeta son mouchoir à une simple bourgeoise, Madame le Normand d'Étiole, née Antoinette Poisson, à qui il donna le marquisat de Pompadour. La Pompadour eut très vite une forte emprise sur le roi, dont elle devint le conseiller politique. Pendant ce temps-là, les chansonniers menaient une guerre contre la favorite, où, selon le mot de Collet, les boulets étaient remplacés par des chansons explosives et les cartouches par des rimes empoisonnées. À sa mort, la Pompadour fut remplacée par la Du Barry, et l'on vit les chansons qui lui étaient destinées préparer la chanson révolutionnaire.
Les grands seigneurs s'avilissent, les financiers s'enrichissent, tous les poissons s'agrandissent, c'est le règne des vauriens.
On épuise la finance, en bâtiments, en dépenses, l'État tombe en décadence, le roi ne m'étendra rien. Une petite bourgeoise, élevée à la grivoise, mesurant tout à la toise, fait de la cour un taudis. Le roi, malgré son scrupule, pour elle, follement brûle, cette flamme ridicule excite dans tout Paris. Cette catin subalterne insolemment le gouverne, et c'est elle qui décerne les honneurs à prix d'argent. Devant l'idole tout plie, le courtisan s'humilie, il subit cette infamie et n'est que plus indigent. Si dans les beautés choisies, elle était des plus jolies, on pardonne les folies quand l'objet est un bijou. Mais pour si mince figure et si sotte créature s'attirer tant de murmures, chacun pense le roi fou. Il est vrai que pour lui plaire le beau n'est pas nécessaire, vingt timides su lui faire trouver son grouin gentil. On croit aussi que d'estrade, si vilaine, si maussade, aura bientôt la passade. Elle en a l'air tout bouffie.
D'un barème les triomphants, plan, 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 tirelire, plan, plan. Le bourgeois et le marchand marchent à la Bastille, marchent à la Bastille, et partout l'ardeur brille. D'un barème les triomphants, plan, 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 tirelire, plan, plan. Le bourgeois et le marchand marchent à la Bastille. Les citoyens de Tournon, blanc, 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 tirelire, blanc, blanc, suivent les drapeaux flottants de ton air intrépide, ton air intrépide, rien ne les intimide. De tous côtés, on entend, blanc, 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 tirelire, blanc, blanc, le bruit de l'air insonnant contre la capitale, contre la capitale, aux Bastilles fatales. De tous côtés, l'on entend les vents, 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 tirelire, vents, vents, le bruit de l'air insonnant contre la capitale.
Sortez de vos cachots funèbres, victimes d'un jour.
Que fait pleuvoir un perfide force cet affreux séjour. Tout se disperse, tout plie, planté d'une.
le mahardi. L'étendard de la patrie flotte déjà sur la tour.
Aussitôt que la Bastille à nos efforts se soumet,
maintes filles de gentilles va danser sur le sommet.
D'un air gaillard sur le rempart,
la jeune beauté saute et frétille.
Filles de qui danser si haut, gardez-vous bien de quelques sauts.
Car si l'on prend bien un donjon,
car si l'on prend bien un donjon,
on prend encore mieux un tendron.
On prend encore mieux un tendron,
on prend encore mieux un tendron.